EMCI TV vous présente l'émission Teach avec Atoms. Un temps d'enseignement et d'étude de la parole de Dieu afin de faire de vous des disciples et vous aider à grandir dans votre foi.
Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. Le Seigneur nous a encore donné un jour nouveau pour aimer les uns les autres et être aimés davantage par lui. Nous avons donc décidé de parler de l'amour depuis un moment. En Corinthiens chapitre 13, Paul décrit l'amour, fait une personnification de l'amour. Il donne des attributs comme si l'amour était un être et il explique comment l'amour peut être. Il parle de certains attributs, de certains caractères que l'amour doit avoir. Et parmi ces choses, il parle du fait que l'amour ne s'irrite point. Waouh, c'est quasi inimaginable. Est-ce que l'amour ne s'efface jamais, jamais, jamais? Qu'est-ce qu'il veut vraiment dire? J'ai vu beaucoup de gens en lisant ces textes, ils se disent, ce n'est qu'un idéal, ça peut pas être atteint. C'est juste une façon de nous dire qu'on doit aller au maximum parce que je ne vois pas un être humain ne pas se fâcher. Ce genre d'amour est impossible à être exprimé. Est-ce que c'est exactement ça que Paul veut dire ici? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Le mot grec qu'utilise Paul ici, je ne veux pas tenter de le prononcer pour que tous mes amis en Grèce ne puissent pas me condamner, mais je veux prononcer la translittération qu'il y a ici, paroxynetai, ce qui signifie ne s'exaspère pas, ne s'enflamme pas vite. Quand les traducteurs traduisent ça par ne s'irrite point, il ne veut pas dire n'a pas juste une colère normale, non. Ça veut dire qu'il y a et la vitesse et le degré. Ce n'est pas que la colère n'arrive pas à l'amour. Non, la colère est une expression normale de l'indignation. Colère ne signifie pas négatif. Colère, c'est positif. C'est l'expression du jugement. C'est l'expression de la justice. N'oubliez pas, Dieu lui-même a prévu tout un jour, toute une saison de colère. Dieu se fâche plusieurs fois dans la Bible. Jésus-Christ vient montrer la sainte colère. Il y a même ce qu'on appellerait une sainte colère. Dans les termes qu'utilise Paul, ce n'est pas autant la colère elle-même que, en réalité, la quantité, le degré, ainsi que la vitesse à laquelle cela arrive. Ça veut dire que c'est rapide sans avoir pris compte de certains éléments et c'est exagéré, c'est disproportionné. Ça ne ressemble pas à la raison pour laquelle on se fâche. Paul dit ceci, « L'amour ne se fâche pas vite et ne se fâche pas grandement pour rien. » L'amour n'exprime pas sa colère de façon disproportionnée et l'amour ne va pas d'abord commencer par se fâcher. La colère est utilisée en dernier recours et son expression est proportionnelle à la situation. C'est ce que Paul dit. Paul ne dit pas que l'amour, la charité, l'amour agapé, l'amour de la nature divine que Dieu voudrait que nous puissions aussi manifester, c'est un amour qui ne peut jamais se fâcher. J'ai déjà entendu des gens comme ça tenter de manipuler les autres en leur disant « Ah, mon frère, l'amour ne se fâche pas, arrête d'être fâché. » Non, 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 ça signifie pas ça. Ça signifie pas qu'il n'a pas le droit de se fâcher. Ça signifie qu'il ne doit pas le faire vite, ça doit pas être sa première carte à sortir. Ce n'est pas quand une situation est devant nous, colère est notre première réaction. Non, ça signifie aussi qu'il ne faut pas être disproportionné de la façon de manifester sa colère. Pour quelque chose de si passable, on te voit t'enflammer, délirer comme un fou. Il dit l'amour n'est pas comme ça. L'amour choisit la réaction appropriée à la situation et même quand elle doit exprimer la colère, elle l'exprime qu'en dernier recours de façon appropriée. Ça signifie quoi en quelques termes? Je vous propose certains termes pour que vous puissiez bien comprendre. Premièrement, il s'agit de se dire que l'amour a le visible long. C'est-à-dire que il faut comprendre. L'amour a le visible long. Voilà ce qu'il faut comprendre. Ça signifie que l'amour ne s'enclenche pas si facilement. Vous savez, à la maison, moi, au Congo où j'ai vécu, on a souvent eu beaucoup de difficultés en matière d'électricité, de stabilité de l'électricité. Le pays est immense, la consommation est grande, et beaucoup de consommations sont irrégulières, donc des branchements qu'on n'a pas maîtrisés nécessairement. Les gens se partagent l'électricité et puis ça rend la chose difficile. On vit avec un système qu'on a appelé les délestages, c'est-à-dire qu'on se partage les arrivées de l'électricité d'après chaque coin et chaque secteur. d'une certaine manière, tout le monde est devenu un peu professionnel en matière de savoir quoi brancher, quoi débrancher. Et donc, très petit, on a été initié à l'électricité, quoi, être obligé d'éteindre, allumer, éteindre, allumer. Et il y a plusieurs genres d'interrupteurs. On a dû apprendre les noms, les formes des schémas, schéma 4, schéma 3, schéma 1, schéma 2. Quand on va tirer les fusibles, on va le couper ou bien les associer, on a une petite idée de ce que ça signifie. Dans le terme que je suis en train d'utiliser ici, ça veut dire que l'amour, pour pouvoir l'actionner, ça prend du temps. Pour tirer comme ça en bas, pouf, et laisser passer la colère, ça prend du temps. Quand quelqu'un aime, il prend du temps. Il n'actionne pas la colère comme ça, boum, non. Il prend du temps, il tire petit à petit. Il est possible que la colère ne soit même pas de quoi on ait besoin et il va remettre. La colère ne vient qu'en dernier recours. Mon ami, si tu dis que tu l'aimes, la colère ne peut pas être ta meilleure expression. Vous savez, les gens qui ne s'expriment que par la colère dans leur amour, ils ont tendance à citer ce texte biblique. Qui aime bien, châtie bien. L'Éternel châtie ce qu'il aime. Pour lui, si je t'aime, je dois te châtier. Non, ça signifie pas ça. Les textes que je viens de citer tout à l'heure signifient que lorsque Dieu vient, exerce de la force et que les conséquences de sa leçon nous font mal, c'est parce qu'il nous aime, qu'il nous fait ce mal apparent. Il nous met dans ces conditions pour nous exprimer son amour. On le reçoit comme un mal, mais ce n'est pas un véritable mal, c'est pour notre propre bonheur. Ça ne veut pas dire que pour montrer l'amour, il faut donc aller chercher un châtiment ou aller chercher une colère. La colère, ça vient vraiment en dernier recours. 1 Corinthiens 13, 5 le dit. Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Aimer, ce n'est pas penser d'abord à soi, chercher son propre intérêt, insister sur ses droits. L'amour n'est pas irritable. Voilà, je suis en train de vous lire la version parole vivante. C'est là, l'amour n'est pas irritable. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Voyez ça? Il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne le soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. J'aime comment on traduit, si on dit l'amour n'est pas irritable, il ne s'aigrit pas contre les autres. Ce que Paul est en train de dire, c'est que vous ne devenez pas aigri. L'amour ne consomme pas cette aigreur, tu deviens aigri. Proverbe 14, verset 29 dit, « Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt et s'emporte proclame sa folie. » Celui qui est prompt à s'emporter, pardon, proclame sa folie. Celui qui est lent dans la colère a une grande intelligence. Souvent, tu dis que tu es intelligent, tu as fait de grandes études. Si tu veux le prouver à ta femme, ne sois pas du genre à t'énerver facilement. Ça, c'est une preuve d'amour très, très forte. Tu dis souvent que tu es bien étudié, oui. Tu as bien étudié, tu es quelqu'un de très intelligent. Eh bien, tes enfants devaient le voir dans la lenteur de ta colère. Prends du temps. Ne fais pas de la colère le premier recours. Si tu veux prouver ton intelligence, ça se verra par ta façon d'être lent à la colère. Mais le texte de Proverbe dit que celui qui se fâche, qui est prompt, s'emporte, à s'emporter, proclame la folie. C'est-à-dire, celui qui se fâche à tout moment montre à quel point il est fou, en fait. Il est inconscient. Les termes folie, si souvent dans Proverbe, ne veut pas nécessairement parler d'un état de démence, mais ça veut parler de l'inconscience, des conséquences. C'est de l'immaturité, de l'inconscience des conséquences. En fait, on dit, tu es fou dans le sens où tu te rends pas compte de ce que tu fais. Retenez bien cette phrase. L'amour éteint les étincelles avant l'incendie. C'est de ça que je parle. Avant que ça ne devienne incendieux, avant que ça ne brûle tout, l'amour voit venir cette colère. Elle éteint ça. Mes amis, la colère peut brûler toute une maison. D'ailleurs, la Bible parle de la langue comme un feu qui peut brûler toute une brousse, toute une forêt. L'amour véritable voit les étincelles et se dit, ces étincelles peuvent aller loin. Je sens que ça commence à monter. Ah, vaut mieux calmer. Si vous vous aimez, il faut qu'il y ait quelqu'un qui éteint les étincelles avant que ça devienne un incendie. C'est pas que l'un se fâche, l'autre aussi se fâche. Fâchons-nous pour montrer à quel point nous sommes tous très fâchés. Quand il y a l'amour quelque part, l'un doit retarder sa colère. Si c'est ton ami, apprends à retarder ta colère. Si tu veux découvrir un ami qui t'aime vraiment, il a eu plusieurs occasions de se fâcher, mais il ne l'a pas fait. Deuxièmement, qu'est-ce que signifie l'amour ne s'irrite point? La deuxième pensée, c'est celle de ralentir le corps pour apaiser l'âme. Ça signifie ceci. Je ne veux pas vous expliquer aujourd'hui, en ce moment, dans les prochains enseignements, on va en parler, quel est le processus fonctionnel, physiologique de la colère. Mais les psychologues et les physiologues, les médecins, tous ceux qui sont dans le domaine, disent que lorsqu'une personne se fâche, l'adrénaline monte, soit pour aller du côté supérieur de son corps, pour, s'il a des intentions, un réflexe de se défendre, de se battre, soit ça descend dans ses membres inférieurs s'il a des intentions de fuir, de se déplacer, de se dérober de la situation. Derrière la colère, il y a toujours une réaction physiologique, il y a toujours une réaction du corps. Le corps ressent la colère. Lorsqu'on commence à contrôler la réaction du corps, ça pousse à apaiser l'âme. C'est pour ça, vous voyez, des fois, il y a des gens qui sont tellement fâchés. Vous avez déjà vu ça? Moi, je n'oublierai jamais ça. Je me souviens un tout petit peu de ce que j'avais fait à l'époque. Mais pour ne pas en parler, mais je me souviens que ces jours-là, mon père était tellement fâché. En plus, il s'est préparé à aller au travail. Il était tellement fâché que je n'oublierai jamais ce jour-là. Il était si fâché, il m'a appelé, il s'est préparé à aller au travail, il m'a fait asseoir. Il m'a fait la leçon, je ne voudrais pas en parler ici. Et à ce moment-là, il a frappé sur la table. Bam! La table s'est complètement déchirante. Ce n'était pas une table vitrée, non, pas du tout. C'était une table de bois. Et quel bois? C'est le bois congolais. Un très bon bois. Et il frappe sur la table. Et la table se divise en deux. Pouh! Alors, je vous assure, à ce moment-là, je me suis dit, j'ai beaucoup pensé à ce que Jésus a dit. Si on a fait à moi ça, le bois non mûr, et à vous, je regardais le bois, j'ai dit, ça aurait pu être mon visage, ça. Normalement, en ce moment, je serais divisé en deux. Mais il a montré physiquement ce que sa colère était sur le point de me faire à moi s'il ne l'avait pas contrôlé autrement. Ce jour-là, j'ai eu la bonne leçon que papa peut se fâcher beaucoup plus que je le pense, à un niveau que je ne peux pas imaginer. Derrière la colère, votre corps veut réagir. Si vous pouvez réussir à contrôler votre corps, vous allez commencer à apaiser votre âme. Le corps veut réagir. D'ailleurs, cette montée d'adrénaline, si vous tentez juste de la gérer, des fois, ça peut causer des problèmes en vous. Trouvez un moyen de laisser s'échapper dans votre corps. Certains crient, certains marchent, certains cognent sur quelque chose, mais... Quand vous commencez à contrôler petit à petit le corps, vous contrôlez aussi petit à petit l'âme. La Bible veut dire ceci, celui qui aime ne laisse pas son corps lui faire n'importe quoi quand il est fâché. L'amour ne laisse pas le corps exagérer les véritables doses de l'expression de la colère. N'exagère pas. C'est vrai que tu t'es senti indigné, mais n'oublie pas la base de cette relation. Tu as dit que tu l'aimais. C'est ton frère, c'est ta sœur, c'est ton père, c'est ton enfant, c'est ta femme, c'est ton mari. L'amour ne s'irrite pas, signifie. L'amour est capable de ne pas se laisser faire par les réactions du corps lorsque il est fâché. Jacques 1, 19 à 20. Jacques 1, 19 à 20. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. N'oubliez pas ça. Votre colère, même si vous voulez faire la meilleure expression physique de votre colère, ça n'accomplit jamais la justice de Dieu. Non, mais pasteur, il fallait vraiment qu'il ressente. Oh, je vous parle avec humilité comme votre frère, pas parce que je ne l'ai jamais fait. Mais ça n'accomplit pas du tout la justice de Dieu. Vous ne sentirez jamais ce côté de vengeance, votre cœur, vous les consommez. Vous resterez toujours assoiffé. Le pardon est la meilleure façon de calmer son cœur. Proverbe 16, verset 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Celui qui est lent à la colère, attendez, celui qui est lent à la colère, préparez-vous bien, celui qui est lent à la colère vaut mieux que Superman. Quel que soit votre héros préféré, Batman, Iron Man, je sais pas moi, Spider-Man, c'est une façon de tenter de contextualiser. À leur époque, un héros signifie un guerrier fort qui incarne des grandes victoires, dont le nom fait trembler les adversaires. Celui qui est lent à la colère a plus de puissance et de force à démontrer. Contrairement au monde dans lequel nous sommes, qui nous montre que plus tu montres ta force dans ton corps parce que tu es fâché, plus tu es puissant, la Bible, elle fait l'inverse. Elle dit, celui qui est en toute occasion capable, prêt, normalement, dans l'opportunité d'exprimer toute sa colère, mais qui ne l'exprime pas, celui-là est plus fort que quelqu'un qui a gagné des milliers de villes. Retenez cette phrase. Ralentir ma bouche, c'est accélérer la grâce. N'est-ce pas intéressant ça? Ralentir ma bouche, c'est accélérer la grâce. Quand vous savez contrôler ce que vous dites, comment vous frappez, ou est-ce que quand vous savez contrôler les corps et les expressions corporelles de la colère, quand vous ralentissez le corps, vous accélérez la faveur. La personne se rend compte que, wow, il m'a fait grâce. Il aurait pu faire mal. Il aurait pu faire plus. Ah, écoutez, je ne l'invente pas. C'est comme ça que Dieu se comporte. Comment nous avons découvert la grâce de Dieu? C'est parce qu'il a ralenti sa colère. C'est parce qu'il aurait pu frapper. Il s'est dit non, pas maintenant. Je vais leur donner l'opportunité de se repentir. Chaque fois que la colère est retenue, les effets de la colère sont retenus, l'amour est dévoilé. Chaque fois qu'on a retenu la colère dans sa bouche, dans ses mains, dans son corps, chaque fois qu'on a refusé de rendre colère, c'est la grâce qui est mieux exprimée. Troisième vérité, renouveler ses pensées. Vous voulez vivre un amour qui ne s'irrite pas? Ce qu'il faut faire, c'est renouveler ses pensées. Ça veut dire remplacer, pas refouler. Vous avez des pensées, des choses. Vous savez pourquoi on s'énerve? Parce qu'on tourne la pensée de l'indignation dans notre tête. La colère monte au fur et à mesure qu'on boucle, on se rappelle de la chose qui nous indigne. C'est pour ça que la colère est progressive. Vous voyez quelqu'un qui commence à se fâcher, dit... Mais de qui tu parles comme ça? C'est moi que tu parles? Non, ça s'escalade. Pourquoi? La pensée qui l'indigne ou qui le met dans cet état rentre en boucle. Et ça revient. Et plus ça revient, ça gonfle, ça monte. C'est une pensée qui s'est nourrie et des scénarios qui se multiplient. Et il entend, c'est-à-dire, il voit le sous-entendu. Il dit, ça veut dire que tu veux dire, c'est, voilà, il commence à s'imaginer des choses. L'imagination grandit. La force de la colère est dans la pensée. Le renouvellement de la pensée, remplacer le mal par les biens dans notre tête, apaise les cœurs. Ma femme m'a souvent dit, mais comment toi tu peux voir comme ça? Je dis, chérie, je fournis un effort et je n'y arrive même pas. Je m'accroche à la grâce de Dieu. Je fournis un effort de toujours trouver une justification valable, une raison positive derrière un mal que j'ai subi. Je me dis, ça ne peut pas, comme ce n'est pas si évident que c'est, en fait, c'est plutôt parce que c'est tellement évident qu'il n'est pas censé faire ça, mais qu'il a fait. Donc, je me dis, il y a certainement une raison que je ne connais pas maintenant. Donc, je ne veux pas m'emporter parce qu'une chose a été faite, et que j'ai été indigné. Je me dis, on ne devrait pas faire ça, et je sais qu'il ne devrait pas faire ça, elle ne devrait pas faire ça, mais elle a quand même fait. Donc, il y a certainement de mon côté à moi une information que je manque. Je préfère accorder le bénéfice de tout, du doute. Et si je le fais, je ne veux pas le faire d'apparence, je vais le faire du fond de mon cœur. Bah, frère, il faut décider de renouveler ta pensée. Ma sœur, renouvelle ta pensée. Regarde les choses sous un autre angle. ne regarde plus dans l'angle de ta dignité, de combien de valeurs tu as, combien respectueux, combien de diplômes, quel est ton âge. Ne regarde pas dans cet angle-là. Regarde-les dans l'angle de quelqu'un qui a reçu le pardon de Dieu, de quelqu'un qui lui aussi a fait tellement de bêtises qu'il aurait voulu, s'il était à la place de l'autre, être pardonné. Change tes pensées, remplace ça. Ce n'est pas facile, mais il faut le faire. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Paul parle aux Corinthiens et leur dit l'œuvre de l'évangile, la prédication de l'évangile, c'est ce que ça fait. Il dit nous nous battons contre des pensées sophistiquées, nous les soumettons au contrôle de la pensée de Dieu, nous les réorientons à comment Dieu pense. Il dit que les hommes, quand ils pensent, leur raisonnement, leur philosophie se dressent en rempart, ils créent des murs pour empêcher Dieu de les toucher. Mais l'évangile est une arme forte qui vient casser ces murs et nous récupérons les pensées humaines et nous le soumettons au contrôle de Dieu. Laisse tes pensées être soumises au contrôle de la parole de Dieu. Si ta pensée est soumise au contrôle de la parole de Dieu, lorsqu'une colère arrive, tu sais où aller la tremper pour qu'elle s'étouffe. Il doit y avoir une pensée plus forte que toi pour que lorsque le fer a rougi dans ta tête, tu aies le juste le glisser dans l'eau. Et que tu te décompresses. Je prie Dieu pour quelqu'un aujourd'hui qui n'arrive pas à se décompresser comme ça. Quand la colère monte, il faut qu'il puisse marquer de fer chaud quelqu'un. Il faut qu'il fasse quelque chose. Je prie Dieu que dans ton esprit, sa parole vienne comme de l'eau qui chaque fois quand le fer est chauffé, que ta colère décompresse. Maman, que ta colère apprenne à décompresser devant tes enfants. Papa, que ta colère apprenne à décompresser. Ouh, devant les ados, ouais, je sais de quoi tu parles. Oh, que ça décompresse, parce que l'Esprit de Dieu a changé ta pensée. Philippiens 4, 8 dit, reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà comment on doit commencer à penser. Pensez comme ça et la colère ne fera pas son boucle dans votre tête. Retenez cette phrase. Changer des pensées, c'est changer des réactions. Dès que vous changez des pensées, vous changez de réaction. Dès que vous pensez autrement, vous réagissez autrement. Une raison de se fâcher vient dans votre tête, ça rencontre une autre façon de penser, vous n'allez plus avoir la même réaction. Quatrièmement, n'oubliez pas qu'on est en train de parler de l'amour qui ne s'hérite point. Et on essaie de découvrir comment faire, justement, pour avoir un amour qui ne s'hérite point. Quatrième point. Répondre avec douceur, pas avec vigueur. L'idée de la vigueur ici, ce n'est pas la vigueur en tant que force, en tant qu'énergie, mais c'est en tant que expression colérique, en tant qu'une intensité incontrôlée. N'oubliez pas, Paul, quand il dit l'amour ne s'hérite pas, il dit l'amour ne s'exaspère pas. L'amour ne s'éclate pas en colère. Et ça, c'est souvent dans nos réponses. Paul, Christ, même le proverbe, nous demande de tourner notre langue 7 fois avant de pouvoir parler. Quelqu'un peut faire quelque chose, mais à partir du moment où c'est toi qui dois réussir, qui dois répondre, qui dois réagir, ce n'est plus lui, ça ne dépend plus de lui. La Bible nous enseigne la foi chrétienne non pas comme une foi réactive, c'est une foi d'initiation et non pas des réactions. Nous initions nous-mêmes nos propres actes. Nous ne subissons pas ceux des autres. Quelqu'un peut avoir beau parler, insulter, crier, et même décider de devenir mon ennemi. Moi, je ne réponds pas à cela par être ennemi. Aimez vos ennemis. Proverbe 15, 1 dit, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Des fois, la colère est là. Elle est latente. Mais la qualité de la réponse que tu as donnée, la poudre au feu, directement. On aurait pu se taire. Si donc tu es autant fâché, tais-toi. Ou alors dis, je préfère ne pas répondre. Éphésiens chapitre 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Pas de paroles mauvaises, mon frère, pas de paroles mauvaises. Quand tu sens toi-même que les paroles que tu sors sont des paroles blessantes, tu attends que les gens soient blessés. ça vient pas de Dieu, ça. Écoutez cette phrase. La douceur éteint des incendies que la force nourrit. Quand on est doux, on éteint des incendies que la vigueur, la force aurait pu nourrir. Juste la douceur. Regardez comment Jésus était. Il était d'une telle douceur que même quand ses opposants criaient, il était d'une telle douceur. Et sa douceur a permis à ce que tout s'accomplisse et que les choses s'accomplissent. Regardez quelqu'un comme Moïse. Il s'est fâché tout le temps au point qu'il a mal posé un acte et Dieu, à cause de ça, lui a empêché d'entrer dans la terre promise. Mais Jésus, accomplissant la volonté de Dieu, était d'une telle douceur même devant ses adversaires que tout était accompli. Ne laisse pas la colère empêcher au plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Cinquièmement, guérir les racines. Ça veut dire pardon et compassion. L'amour ne s'irrite pas. L'amour ne s'enflamme pas en colère. Ça signifie qu'il faut apprendre à guérir les racines de la colère. Ce qui te fait fâcher. Ce qui fait que quand tu penses à cette personne, t'es pas dans tes états. Quand elle passe là, tu changes d'état d'esprit. Quand tu as entendu parler d'elle, c'est qu'il y a quelque chose dans les racines qu'il faut complètement guérir. Il faut soit pardonner, soit user de compassion encore. Colossiens chapitre 3, versets 12 à 13. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Surmontez, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Psaume 103, verset 8. L'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Mes frères, soyons comme notre Dieu, lent à la colère, riche en bonté. Qu'est-ce qu'il faut? Supportons-nous les uns les autres, pardonnons-nous. L'amour, pour se guérir de la colère, pour qu'elle ne s'irrite pas, l'amour pardonne. L'amour exprime encore de la compassion. C'est dit, écoutez ce que Jésus disait. Il est encore à la croix, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette phrase dit ceci, là où je pardonne, l'irritation perd son carburant. Là où tu décides de pardonner, qu'est-ce que tu fais? Tu vides la colère de son carburant, de son moteur. La colère était prête, vum, 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 vum. Je vais m'exprimer, dès que tu as pardonné, le pardon n'est pas un ressenti, le pardon est une décision. Ben, on n'en parle pas aujourd'hui. Mais si tu veux vraiment te débarrasser de la colère, ce n'est pas avec la vengeance humaine. La colère de l'homme ne rend pas la justice de Dieu. Le pardon et la compassion. Souviens-toi, c'est comme ça que Dieu nous aide jusqu'aujourd'hui, parce qu'il nous pardonne et il est compatissant envers nous. Voilà cinq choses maintenant que je vais vous proposer de façon pratique à faire. 1. Décide de ne pas discuter quand tu es affamé ou fatigué. Si tu sens que tu t'énerves facilement et que la colère vient si facilement, quand tu es fatigué ou tu n'as pas mangé, c'est pas le meilleur moment de faire des discussions importantes. Ni avec ta femme, ni avec tes amis, ainsi de suite. Vous pouvez parler de tout et de rien, mais quand c'est une discussion émotionnelle, quand tu n'es pas en état physique équilibré, ne le fais pas. Quand tu es affamé, tu ne sais pas bien gérer tout ton corps. Quand tu es fatigué, tu ne sais pas bien gérer tout ton corps. Ne sois pas dans un contexte où le corps est incontrôlable. C'est pas à ce moment-là qu'il faut parler des choses émotionnelles fortes. Tu risques d'abîmer des amitiés, abîmer des relations qui ont été là pendant longtemps, juste parce que tu n'as pas géré ton corps pendant quelques minutes. 2. Traduis ta colère en « je ressens, je demande ». Quand tu es fatigué, plutôt quand tu es fâché, quand la colère arrive, exprime tes sensations, exprime ton ressenti. Ne t'en va pas juste faire, dis ce que tu ressens, dis ce que tu veux. Je demande qu'on fasse ceci, moi ce que je demande c'est ceci, cela, dis ce que tu demandes. Ne te fâche pas contre les gens parce que des fois, ils savent pas ce que tu veux. Et parle-leur de tes ressentis au lieu de juste cogner, crier. 3. Bois un verre d'eau quand ça chauffe. Ça semble être banal, mais le corps fonctionne comme ça. La colère, c'est comme un genre de volcan. Calme le volcan en y mettant de l'eau. Bois un verre d'eau. Des fois, c'est littéral. Et la colère est physiologique. Autant que tu ressens la colère comme un battement de cœur, autant quand tu y mets de l'eau dans ta bouche, ça a tendance à t'apaiser. 4. Détecte ton déclencheur et nomme-le. Un déclencheur, c'est le genre de choses qui excitent facilement ma colère. On a soit l'injustice, le mépris. Quand tu te sens méprisé, c'est là que tu t'enflammes. Quelles sont les choses qui te font fâcher facilement? Quand on était petit, chez nous, on disait, si tu oses insulter ma mère, c'est là que je me fâche. Tu peux m'insulter si tu veux. On se donnait déjà un déclencheur. Quel est ton déclencheur? C'est quand on commence à aller dans les détails, on parle de toi, qui a un déclencheur comme ça? Nomme-les dans la prière quand tu es devant le Seigneur. Et enfin, pardonne rapidement les petites offenses. Tu veux apprendre à ne pas te fâcher, à ne pas laisser la colère abîmer l'expression de ton amour. Les petites offenses, ne fais pas des listes. N'essaie pas de t'en souvenir et dire un jour, je lui dirai ça. Pardonne, oublie très vite, exerce-toi à pardonner rapidement. Alors, on se voit demain. Que Dieu vous bénisse.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Teach sur emcitv.com.